Donc je rappelle la vision du comité évangélisation, c'était le Romains 1, verset 16. Car je n'ai pas honte de l'évangile, c'est la puissance du salut pour quiconque croit, du juif premièrement et du non-juif. Donc on voit dans ce passage deux choses. C'est qu'on est appelé à ne pas avoir honte. Donc, je pense que des fois on a un peu cette honte, ou en tout cas cette gêne d'annoncer notre foi. Donc on va creuser un peu plus ça. Et la deuxième chose, c'est que l'évangile, c'est une puissance. Donc l'évangile, c'est une puissance. C'est une puissance qui permet de sauver tous ceux qui croient en Jésus. Et ça, c'est important. C'est pas juste un concept, une croyance. Mais là, on parle d'une puissance. Et cette puissance, elle vient de Dieu. Voilà. Donc c'est un peu les deux choses qu'on peut tirer principalement de ce verset sur lequel je voulais mettre l'accent. Mais avant d'aller plus loin, je propose qu'on fasse un petit tour de table où chacun en deux, trois phrases, hein, pas plus, nous disent un peu quelles sont les personnes auprès de qui vous avez pu déjà témoigner. Quelles sont les personnes auprès de qui vous avez pu témoigner dans votre vie jusqu'à présent? Voilà. Donc, on va commencer par Alain et on fait un tour de table comme ça.
Auprès de mes collègues, j'ai pu témoigner. Auprès de des voisins aussi. Et auprès de ma famille.
Okay. Quand vous finissez, vous passez le téléphone.
Moi, quasiment pareil. Hein. Pas mal auprès de mes camarades de classe, de mes collègues et de ma famille aussi. Enfin, du coup, ma famille, c'est plus... des débats théologiques, mais c'est de l'évangélisation aussi, dans un certain sens.
Il y avait auprès des gens que je ne connaissais pas, pendant les camps d'évangélisation, dans la rue ou à d'autres endroits. Bah, la famille, pareil. Les voisins, un petit peu moins. Oui, les voisins. Les camarades de classe, ouais, plus les amis de longue date. Et les collègues aussi un petit peu. Voilà.
Moi, c'est principalement les collègues.
Moi, c'était pendant un moment où j'étais avec Clément et on était sortis pour évangéliser avec les voisins de l'église.
Moi, c'est la famille et les collègues.
Moi, c'est ma famille, un petit peu, mes collègues et des amis d'enfance.
Et les camarades et les amis d'enfance.
Moi, c'est surtout les camarades de classe.
Alors moi, c'est les collègues, la famille et les inconnus dans la rue. Voilà. Ok. Donc là, on voit qu'on a, on est tous différents. Mais je pense qu'il y a quelque chose qui revenait assez souvent, c'était quand même la famille. Donc c'est pour ça qu'on a jugé utile d'avoir une séance complètement dédiée à la famille. Également les amis, parce que quand on a des amis très proches, c'est un peu comme la famille aussi. Et on verra aussi que la famille, c'est pas le plus facile, parce que souvent la famille nous connaît déjà depuis un certain temps. Et du coup, c'est pas toujours évident. Voilà. Mais ça, on verra la prochaine fois. Je rappelle juste les différents projets du comité. On va organiser une séance de ciné-culte. Donc l'idée, c'est de pouvoir amener des amis qui ne sont pas croyants. Peut-être qu'ils ne viendraient pas un culte, mais si vous leur dites que c'est une séance de cinéma et que vous êtes là, ça peut peut-être les motiver. Sachant qu'ensuite, l'idée, c'est d'avoir un témoignage ou deux témoignages de personnes qui ont vécu des relations assez fortes, de pardon. Donc après, est-ce que c'est vis-à-vis de leurs parents, ça je ne sais pas, mais ça serait assez beau de pouvoir avoir ce témoignage-là. Donc ça sera en novembre, donc on peut déjà noter la date. Et en parallèle, on accompagne aussi avec le comité évangélisation notre frère Samuel Taille pour l'évangélisation auprès des migrants. Donc on sort à peu près une fois par mois avec lui pour aller voir les migrants au CADA, les centres d'accueil des demandeurs d'asile. Donc sans plus tarder, nous allons aller directement au thème d'aujourd'hui qui est faire des nations des disciples. Je propose de lire ensemble ces trois versets. 1, 2, 3.
Jésus s'approcha et leur dit : Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez donc, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à mettre en pratique tout ce que je vous ai prescrit.
Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde.
Ok. Ces trois versets vont être le leitmotiv de tout le comité évangélisation aussi. Parce que dedans, il y a vraiment toute l'essence de ce qu'on doit retenir pour faire des nations des disciples. Première chose qu'on voit, c'est que Jésus nous appelle à aller au début du verset 19. Donc il dit d'aller, il ne dit pas rester chez vous, attendez que les gens viennent à l'église peut-être. Mais là, il dit clairement aux disciples, allez, partez, allez sur le champ missionnaire, allez là où sont les gens qui ne connaissent pas Dieu. Deuxième chose qu'il leur dit, c'est d'aller faire de toutes les nations des disciples. Il ne dit pas juste les Chinois, pas juste les Vietnamiens, pas juste les Français, pas vraiment toutes les nations, tout type de nations. Donc c'est pour ça que quand, par exemple, Samuel a à cœur vraiment les peuples non atteints, ça obéit à ce commandement. Quand je vais parler à mon collègue qui est peut-être musulman, bah ça fait partie de ces nations-là en fait. Toutes les nations. On ne se restreint pas à une ethnie particulière, c'est vraiment toutes les nations. Que le copain de Clark soit congolais ou algérien, ben Clark a quand même envie de partager la bonne nouvelle, quoi. Il va pas dire ah bah lui non parce que il est pas. Non, c'est de toutes les nations. Vous voyez, c'est vraiment toutes les nations ont besoin d'entendre parler de l'Évangile. Et on ne sait pas aussi qui Dieu va choisir. Parce que qui est-ce que Dieu va toucher? Ça, on ne sait pas. Moi, je vais partager l'Évangile, mais je ne sais pas qui Dieu va toucher. C'est l'Esprit de Dieu qui touche. Moi, j'ai beau venir avec mes arguments, c'est l'Esprit Saint qui va toucher le cœur des gens. C'est l'Esprit Saint qui va convaincre les gens de pécher. Et enfin, troisième chose, le but, c'est d'enseigner, verset 20, à mettre en pratique tout ce que Jésus a prescrit. Enseigner à mettre en pratique tout ce que Jésus a prescrit. Et qu'est-ce que Jésus a prescrit? Bah, c'est de faire des nations des disciples. Vous voyez, c'est le raisonnement par récurrence. Donc, c'est-à-dire, je fais un disciple, qui va faire un disciple, qui va faire un disciple. Qu'est-ce que je fais? Bah, je lui enseigne à faire des disciples. Vous voyez, c'est comme un cercle. Et on n'est pas appelé, donc, du coup, à juste être converti et venir à l'église et juste venir à l'église. On est appelé, une fois qu'on est transformé par l'Esprit Saint, bah, à devenir des chrétiens, des disciples, en fait. Et c'est le but de notre vie, c'est de faire des disciples. C'est ce que Jésus nous encourage à faire. Alors peut-être on ne voit pas toujours ça dans l'église, même dans notre église, hein, ou dans d'autres églises. Mais c'est peut-être aussi parce qu'on s'est un peu reposé aussi par notre vie de tous les jours. Et du coup on se dit, bon, bah, je préfère aller faire ça plutôt que ça, plutôt que ça. Et là du coup on perd de vue en fait que le but de notre vie, c'est faire des nations, des disciples. Et pas des chrétiens du dimanche. Donc ça c'est, on a répondu au pourquoi. Ensuite, on va voir maintenant le qui. Vous avez tous participé. Je ne sais pas s'il y a des feuilles de brouillon dans l'église. Vous savez s'il y en a? Des feuilles de brouillon. Donc là, l'idée, dans cette partie-là, on va parler d'un mot grec qui s'appelle oikos. Je ne sais pas si ça vous parle. Alors, le mot grec oikos, O-I-K-O-S, ça désigne en fait toutes les personnes qui sont dans votre entourage. Donc ça peut être vos amis, en fait toutes les personnes que vous avez partagées, vos collègues, vos amis, votre famille, les voisins peut-être avec qui vous avez des bonnes relations, des personnes que vous avez à cœur, des personnes que vous rencontrez assez régulièrement. Donc toutes ces personnes-là désignent oikos. Oikos, c'est le mot grec pour dire maisonnée. Quand Pierre est appelé par le Dieu aller dans la maison de Corneille, vous savez, dans Actes des Apôtres, il va dans la maison de Corneille. Et Corneille, il a écrit qu'il invite toute sa maisonnée, tout son oikos. En fait, Corneille, c'était quelqu'un qui avait envie d'entendre parler de l'Évangile. Il invitait tous ses amis, toute sa famille, pour venir écouter ce que Pierre avait à leur annoncer. Et ce que Pierre avait à leur annoncer, c'était que l'Évangile, c'était pas juste pour les Juifs, parce que les gens pensaient que c'était que pour les Juifs, mais que l'Évangile, cette puissance de Dieu, c'était pour tout le monde, toutes les nations, pas juste... c'est pas juste les Juifs, mais vraiment toutes les nations. Ok. Donc, c'est toutes les personnes de notre entourage, l'oikos. Et l'idée avec les feuilles que Mike va vous passer, c'est prendre un stylo et de noter en fait des personnes que Dieu vous a mis à cœur, des prénoms de personnes que Dieu vous a mises à cœur. Donc on va voir ce temps-là, donc ça sera, on va se laisser 5-10 minutes où vraiment on prie Dieu de vous si jamais ça ne vient pas, de susciter des noms de personnes. Ça peut être des camarades, ça peut être des collègues, ça peut être des membres de la famille particuliers. Et une fois que vous avez fini de faire cette liste-là, essayez de vous focaliser sur peut-être 5 noms. Ça ne veut pas dire que les autres, on s'en fiche, hein, mais c'est 5 noms dans lesquels vous vous dites avec Dieu, bah, ouais, j'ai envie de faire un effort particulier dans les jours à venir, dans les semaines à venir, sur ces 5 personnes. Voilà. Donc, on va faire passer des feuilles. Et c'est un petit exercice pour chacun d'entre nous. Vous pouvez prier avant, c'est vraiment sentez-vous libre. Donc je rappelle l'exercice, c'est écrire les noms de personnes que Dieu vous a mises à cœur. Et après, une fois que vous avez fait ça, c'est sélectionner 5, ça peut être moins, ça peut être plus, hein, 5 c'est un principe, de personnes que vous avez envie de vraiment faire des... que vous avez particulièrement à cœur pour faire des efforts dans les semaines à venir. Il y a peut-être des personnes où vous avez des doutes. Vous vous dites, mais est-ce qu'il est chrétien? Est-ce qu'il n'est pas chrétien? Des gens qui allaient à l'église avant, mais qui ne viennent plus à l'église, peut-être, par exemple. Il y a un principe, c'est que quand il y a un doute, il n'y a plus de doute. Donc, si vous avez un doute, notez son nom et puis considérez-le comme plutôt un non-chrétien. Comme ça, vous aurez plus à cœur de prier pour lui, de lui parler de Dieu. Quand il y a un doute, il n'y a plus de doute. Ok, dans les 5 noms que vous avez notés, la première chose à faire, vraiment la première chose à faire, c'est de prier régulièrement pour ces personnes. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand vous allez prier pour ces personnes, ça, vous allez plus souvent penser à elles, vous allez avoir encore plus à cœur de prier pour son salut, pour qu'elle rencontre le Seigneur, pour ce qu'elle traverse, pour prendre des nouvelles aussi. Des fois, on se dit, tiens, telle personne, il faudrait que je prenne un jour des nouvelles, mais une fois qu'on en fait notre priorité, c'est pas un nom sur une liste, en fait. L'exercice, là, il n'est pas... Il ne faut pas juste se dire, bon, bah, Clément, il m'a donné cette feuille, et voilà. Mais c'est vraiment... c'est juste une aide pour vous guider vers les personnes que Dieu vous a mises à cœur, et que peut-être dans la vie desquelles, Dieu veut que vous fassiez une différence. Ou en tout cas, que Dieu veut faire une différence à travers... Tu veux compléter un peu?
Ouais. Je pense que c'est vrai. Ouais. Comme disait Clément tout à l'heure, c'est pas un nom sur un papier. C'est vraiment une vie en fait, une vie qui est en jeu. Et nous, en tant que disciples, on a vraiment à cœur de pouvoir partager la parole. Et je pense que on parlait tout à l'heure de Matthieu 28 et d'annoncer la bonne nouvelle à toutes les nations. Et je pense qu'on voit, il faut qu'on voit aussi ça comme une grâce que Dieu nous donne. Dieu nous donne la possibilité de pouvoir, et Dieu nous donne cette possibilité aussi de nous associer à son œuvre, de faire en sorte qu'on puisse partager la parole, de faire en sorte qu'on puisse partager notre vie, qu'on puisse partager ce qu'il a fait dans notre vie aussi. Et c'est vraiment un privilège qu'on a en tant que chrétien de pouvoir porter ce message aux autres et aux personnes qu'il a mis à notre cœur. Donc c'est vrai que la prière, c'est la base de tout en fait. En fait, Dieu va préparer notre cœur à aimer la personne. Parce qu'en réalité, comme on l'a dit, c'est pas juste un nom, c'est pas un devoir en fait qu'on vous demande. Si vous voyez ça comme un devoir, ou comme un devoir de bon chrétien, vous serez pas animé par la bonne chose en fait. C'est l'amour de ces personnes-là qui vont nous permettre d'aller vers eux. C'est l'amour qui va te permettre d'aller vers ces personnes-là de manière régulière, même si elle lui dit « ouais, j'ai pas trop envie d'entendre la parole », c'est pas très grave, entre guillemets, parce qu'on voit plus loin que ça, on persévère. Et on dit « Seigneur, même si aujourd'hui tu n'es pas prêt à entendre la parole, je continue quand même à prier pour toi, je continue quand même à t'aimer. » Et c'est à travers cet amour-là que Dieu va changer les cœurs aussi. Pas forcément obligé de tout le temps balancer, entre guillemets, les choses, mais l'amour qu'on aura pour ces personnes-là, et la prière nous permet en fait de changer notre cœur. Bien souvent, en tant qu'être humain, on est peut-être trop orgueilleux, trop égoïste. On pense trop à nous, on pense pas assez aux gens. Et prier pour les gens, c'est la première chose à faire, en fait. C'est dire, ma vie, c'est pas juste moi, mais c'est aussi les autres. Et Seigneur, donne-moi cet amour pour les autres. Et si on n'a pas cet amour-là, en fait, je pense que c'est compliqué d'évangéliser. C'est pas juste un devoir à rendre à Dieu. Quand ce sera la fin du monde, on rendra ce devoir-là à Dieu. Regarde, j'ai évangélisé ça. Mais c'est l'amour qui nous habite pour parler à ces personnes-là. La prière, c'est vraiment un moyen de préparer notre cœur à aimer ces personnes-là.
Ok. Je propose qu'on ait 5 minutes où vous partagez avec votre voisin peut-être un ou deux prénoms, ou peut-être tous les prénoms comme vous voulez, et que vous expliquez un peu pourquoi, et comme ça vous pouvez prier ensemble pour ces personnes-là, par groupe de deux, du coup. Ok, on va continuer.
Il y a Anne-Marie qui
nous a. Yes, bienvenue Anne-Marie.
Merci.
Donc on a vu pourquoi faire des nations des disciples, on a vu qui, on a parlé de la notion d'oikos, de la maisonnée, un peu comme Pierre avec Corneille qui a invité tous ses proches. Et là on a chacun, on a été guidé, on a essayé d'être guidé par Saint-Esprit pour écrire des noms que Dieu nous avait mis à cœur, et de prier avant tout pour ces personnes, et de prier aussi pour que Dieu nous donne... suscite des occasions aussi pour nous donne envie de prendre contact avec ces personnes en particulier. Pourquoi 5? Ça peut être 3, ça peut être 8, mais ça peut être 3 effectivement.
Ça fait une bonne moyenne.
C'est ça. C'est histoire de pas se fermer les portes. Après, ça, moi, il y a plein de fois, j'ai fait cet exercice plusieurs fois, je mettais des noms et puis en fait, Dieu faisait en sorte que c'était d'autres personnes. Mais au moins, j'avais ces personnes-là et on a reconnecté avec, quoi. Mais des fois, Des fois, on a envie d'investir du temps dans telle personne, et après, Dieu, il a ouvert une porte de fou dans une autre vie de quelqu'un d'autre, que vous connaissez peut-être moins, mais qui est beaucoup plus proche, en fait, qui a un champ qui est plus prêt pour la moisson. Alors que la personne à qui on insiste depuis 30 ans, moi je parle de mon père, c'est les plus durs, quoi. Voilà. On va voir maintenant le comment. Il y a deux choses en particulier, c'est déjà le témoignage. Donc notre témoignage, lorsque on se fait baptiser, on raconte notre témoignage, donc on nous raconte notre vie avant de connaître le Seigneur, comment on a connu le Seigneur et depuis, comment est-ce que ça se passe dans notre vie avec le Seigneur. Et ça, c'est la première chose qu'on va voir. Et la deuxième chose qu'on va voir, c'est qu'est-ce qu'on raconte, le message de l'Évangile. Donc est-ce qu'on... à quel point on partage tout le message ou pas de l'Évangile. Ça, c'est ce qu'on va voir aussi. Donc, dans le comment, le témoignage, je pense que la plupart d'entre vous connaissez un peu l'exercice, c'est avant comment c'était, comment est-ce que je me suis converti, et après, comment est la vie avec le Seigneur. Après, ceux qui ont grandi dans l'Église, moi, je pense notamment à Clark et à Nathan, peut-être depuis tout petit, vous avez été bercé dedans, et depuis tout petit, vous n'avez jamais remis en cause le fait que Dieu existe et que Jésus est votre Seigneur et Sauveur. Donc si tel est le cas, vous pouvez raconter ça. Enfin, c'est pas, il n'y a pas forcément un jour où il y a une expérience, quoi. Moi, j'ai des amis, ils se souviennent même pas, ils ont mon âge, ils n'ont jamais remis en cause leur foi. Et c'est pas pour autant qu'ils sont pas convertis, il n'y a pas eu un déclic, quoi. Donc vous inquiétez pas, vous n'êtes pas obligé d'avoir été comme le fils prodigue, aller dilapider tous vos biens et de revenir à Dieu, quoi. Voilà. Vous pouvez très bien être juste chrétien parce que vous avez grandi dans une famille chrétienne, et surtout parce que vous avez jamais, vous-même en fait, vous avez toujours eu cette relation avec Dieu. Même si vous ne vous souvenez plus à partir de quand, etc., ce n'est pas le plus important. Ok. Donc, notre témoignage, le but du témoignage, c'est de construire un pont. Quand vous venez vers quelqu'un, vous lui balancez le message de l'Évangile, des fois, ce n'est pas toujours facile. Mais quand vous commencez à raconter votre histoire à vous, les gens ne peuvent pas remettre ça en cause. Parce qu'en fait, c'est votre histoire. Et le but, quand je dis que c'est un pont, c'est qu'en même temps que vous racontez votre histoire, vous êtes en train de vous livrer, vous êtes en train de partager quelque chose de personnel qui ne pourra pas être remis en cause. Mais en même temps, dans cette histoire, vous allez pouvoir parler de Dieu. Qu'est-ce que Dieu a fait dans votre vie? comment est-ce que vous êtes rendu compte que vous étiez pêcheur ? Dans ce cas-là, expliquer, c'est-à-dire quoi être pêcheur ? Et en fait, ça va vous amener en fait, à ouvrir des portes pour annoncer qu'est-ce que le message de l'évangile. Ou une partie du message de l'évangile, si jamais il n'y a pas le temps, parce que vous êtes dans peut-être une relation de longue durée, donc ça ne sert à rien de vouloir tout balancer d'un coup si la personne n'est pas prête à recevoir. Donc, notre témoignage ne doit pas durer plus de 3 minutes. Alors, c'est un principe. Après, si vous êtes avec un ami dans un bar et que vous êtes tous les deux et que vous avez une heure ensemble, bah, ça peut durer une heure, quoi. Mais l'idée, c'est que ce soit assez court pour que si jamais vous êtes à la machine à café avec un collègue et que vous êtes que tous les deux, bah, avant de retourner travailler, vous n'êtes pas payé pendant une heure pour raconter l'évangile non plus. Donc, par exemple, je crois que vous puissiez assez rapidement aller droit au but et qu'ils puissent percuter sur « Ok, je comprends qu'est-ce qu'il a dit. » Alors que des fois, on va raconter toutes les bêtises qu'on a faites pendant 20 minutes. Et après, « Ah, bon, bah, je suis désolé, il faut que j'aille bosser. » Et du coup, on n'a pas pu raconter qu'est-ce qui a changé dans nos vies. Ce serait un peu dommage, quoi. Donc, ça, court. En gros, gardez le court et clair. C'est vraiment les règles. Le contenu, donc avant, comment, avant ma conversion, comment je suis converti et depuis, comment ça se passe. Et je vais laisser Mike aussi partager parce que souvent, j'ai remarqué, on a, ce qu'on a parlé au Café Chrétien, on a l'habitude de raconter le même témoignage. Vous savez, ah, je me suis converti, bah, moi, par exemple, je suis converti en 2005, donc j'ai raconté mon témoignage de 2005. Puis après, quand je vois des gens 5 ans plus tard, bah, je raconte le même témoignage. Mais c'est comme si entre 2005 et 2010, il ne s'était rien passé. Mais non, il s'est passé plein de choses. Et le but, c'est pas de dire comment je suis converti, et puis depuis, bon, ma vie, voilà, elle est comme ça. Le but, c'est de dire aussi comment est-ce que Dieu aujourd'hui agit encore dans ma vie. Voilà. Donc, ça va être l'exercice. Et je propose à Mike de poursuivre la présentation. Je vais afficher un truc.
Ouais. Alors là, on est vraiment dans la partie un peu plus pratico-pratique, donc personnelle. Ça va être un peu, pour ceux qui ont participé au Café Chrétien, ça va reprendre un peu les mêmes principes qui étaient en fait, comme l'a dit Clément, en fait, l'importance du témoignage. Vous savez, quand on parle de choses et quand on veut partager l'évangile, c'est bien beau de dire que l'évangile sauve, mais nous alors, enfin nous personnellement, comment est-ce que ça m'a changé? Et c'est ça souvent qui va aussi toucher les personnes, parce qu'on est là pour créer une relation. Quand une personne comprend que ouais, toi personnellement tu as été transformé, tu as vécu et tu as cru en Jésus-Christ et Dieu t'a changé, ça a un impact aussi sur les gens parce qu'ils te voient aussi. Les gens voient comment est-ce que vous comportez. Donc c'est important de se dire aussi, Dieu, j'ai cru en Dieu. Donc ça c'était le témoignage en fait de conversion. Et comme l'a dit Clément après, qu'est-ce qui s'est passé après? Est-ce qu'au moment où j'ai cru en Dieu, bah voilà, ma vie s'est écoulée, il ne s'est plus rien passé? Ou est-ce que le fait de faire confiance en Dieu et de vivre ma vie en tant que disciple, il y a eu des changements qui sont opérés de manière continue? Et c'est ça en fait qu'on va voir, c'est qu'est-ce qui s'est passé après? Donc vous avez vu, il y a le avant, donc quand j'étais pêcheur, pendant entre guillemets, ma conversion, après ma conversion. Et là, en fait, on va se focaliser sur un peu... C'est tellement beau.
Ouais.
tellement beau. En fait, c'est ma qualité. Je crois qu'on a les mêmes qualités de dessinateur. Mais voilà, en gros, c'est... Qu'est-ce qui s'est passé après? Là, on va dire que... Là, c'est la vie, en fait. C'est la vie d'un chrétien. On va dire que ici, ça va être le moment de la conversion. T0, à l'instant 0, entre guillemets, ordonné 0, abscisse 0, c'est la conversion. Donc nous, on se focalise sur après la conversion. Qu'est-ce qui se passe après? En abscisse, on aura le temps. Donc, en année, qu'est-ce qui s'est passé? Et en ordonnée, on aura la maturité. Donc si vous comprenez bien, ici, on avance dans la vie chrétienne. Et là, en fait, c'est la maturité. Comment est-ce que je cultive mon intimité avec Dieu? Comment est-ce que je suis proche de Dieu? Comment est-ce que je grandis en tant que chrétien? Et en règle générale, en tant que chrétien, vous voyez, ceux qui font des maths, le coefficient de directeur de la droite doit être positif. C'est-à-dire, on doit aller plus haut. Vous voyez, on doit aller plus haut parce que Dieu, il est tout en haut, entre guillemets, et on veut se rapprocher de lui. Donc, on doit aller plus haut. Mais, comme vous savez, la vie, ce n'est pas un long fleuve tranquille. La vie, ça ne se passe pas toujours comme on veut. Et il y a des moments qui sont matérialisés comme ça, en fait, où il y a des épreuves. Et ça en rouge, Vous voyez, c'est un peu les moments où on se sent bien, où on dit waouh, je me réveille le matin, je me dis waouh, Seigneur, t'es présent dans ma vie, je prends mon petit déj, je ressens une paix, je ressens une joie, je vois des choses qui arrivent, je parle à des gens, je prie, j'évangélise, etc. Je vais à l'église, je sers et je me dis tout se passe bien, je suis waouh, Seigneur, t'es là, t'es vivant, t'es présent dans ma vie. Là, c'est symbolisé un peu par les moments où on est en haut de la courbe. Par contre, il y a des moments, malheureusement, ou heureusement, où on est au creux de la vague. Et ces moments-là aussi sont très importants. Bien souvent, dans notre vie, on se dit « Non, on veut pas avoir des moments difficiles, on veut pas avoir des épreuves. » Et nous, on veut avoir un peu les moments high où on est connecté au Seigneur et tout se passe bien, on a la joie, on a la paix dans toutes circonstances. Mais il y a ces moments-là aussi, entre guillemets, où ce sont des moments d'épreuves et des moments difficiles. Et ces moments-là sont particulièrement importants pour nous en tant que chrétiens. Pourquoi ? Parce que Dieu permet ce genre de choses-là, Dieu est souverain. Dieu permet les moments hauts comme les moments bas dans notre vie. Et ces moments bas-là, des fois qu'on veut oublier ou qu'on veut des fois pas forcément réfléchir dessus, c'est des moments particuliers où Dieu veut nous parler, où Dieu veut nous instruire, où Dieu veut également qu'on puisse grandir. Bien souvent, des fois, des gens utilisent cette image où ils disent que les épreuves et les moments difficiles, c'est un peu un mégaphone que Dieu utilise pour nous parler. Parce que des fois, quand notre vie va bien, on ne veut pas écouter Dieu. On veut vivre notre vie, on fait ce qu'on veut, on dit « je suis au contrôle de tout, tout me réussit, tout va bien ». Par contre, dans les moments difficiles, dans les moments où on a besoin de Dieu, là, on n'est plus à l'écoute. Là, on écoute le Seigneur, ce qu'il a à nous dire. Je vais partager un verset qui se trouve dans Romains chapitre 5, à partir du verset 3, donc je vais vous lire, Romains chapitre 5, à partir du verset 3 qui est écrit « Bien plus, nous sommes fiers même de nos détresses, sachant que la détresse produit la persévérance, la victoire dans l'épreuve, et la victoire dans l'épreuve, l'espérance. » Donc je relis « Bien plus, nous sommes fiers même de nos détresses. » Donc c'est les moments, dans détresse, c'est vraiment ces moments-là. Sachant que la détresse produit la persévérance, la victoire dans l'épreuve et la victoire dans l'épreuve, l'espérance. Vous voyez ? Donc ici, Paul nous dit, je suis encore plus fier de mes détresses, de mes épreuves, de mes difficultés, parce que je sais que ces difficultés-là vont produire de la persévérance. La persévérance, la victoire dans l'épreuve et la victoire dans l'épreuve, l'espérance. Vous voyez ? Il y a un fruit particulier que Dieu nous donne aussi dans ces moments-là, dans ces moments de détresse, dans ces moments de difficulté, qui vont nous permettre de produire de la persévérance, de produire la victoire dans l'épreuve, de produire de l'espérance. Mais ces choses-là ne se font pas tout seules, et ces choses-là aussi vont demander à ce qu'on persévère, à ce qu'on garde confiance en Dieu, à ce qu'on éprouve notre foi. Et du coup, ces moments-là sont particulièrement forts, parce que quand vous partagez ces moments-là avec des gens qui ne sont pas forcément chrétiens, et quand vous ouvrez à des personnes, et que vous parlez de vos moments difficiles, ces gens-là vont être à l'écoute, parce que c'est pas quelque chose qu'on fait naturellement. Et c'est se dévoiler de cette sorte-là, c'est pas commun, entre guillemets. Ça prouve déjà que vous avez confiance en la personne, et c'est un moyen aussi pour vous de partager ce qu'il y a au plus profond de votre cœur. C'est-à-dire, comment est-ce que Dieu a pu me toucher dans des moments difficiles, dans
ils, peuvent, moments... ils peuvent s'identifier aussi.
Et ils peuvent s'identifier.
Si jamais ils traversent une épreuve qui ressemble un peu à notre épreuve, où ils peuvent voir aussi, ah, comment est-ce qu'il s'en est sorti dans son épreuve, parce que je suis peut-être encore dedans. Mm-hmm. Ça, autant, ils partagent peut-être pas la même foi, mais on partage tous le fait d'avoir des épreuves dans la vie, plus ou moins hautes. Mais justement, ça peut leur parler encore plus.
Ouais, exactement. Et c'est un moyen aussi pour vous de montrer que, voilà, dans ma vie, il y a ces moments hauts, il y a ces moments bas, mais invariablement, en fait, la personne vers qui je me tourne, invariablement, la solution, entre guillemets, à tous mes problèmes, c'est Jésus-Christ, c'est Dieu. C'est dans ma relation avec Dieu, dans mon intimité avec Dieu. Et ce qui est important aussi, c'est que en donnant la solution, c'est qu'est-ce que vous avez appris ? Enfin, qu'est-ce qui s'est passé ? Comment est-ce que ça vous a changé ? Alain va nous donner tout à l'heure un exemple, mais moi, rapidement, un exemple, c'est d'un moment comme ça, c'était vraiment, moi, la période de chômage. Pour ceux d'entre vous qui ne savaient pas, j'ai travaillé pendant 2 ans, 3 ans. Et ça a été très difficile pour moi. Et je pense que cette vallée-là, elle était deep. Et à ce moment-là, en fait, je me suis posé la question, Dieu, qu'est-ce que tu veux m'apprendre ? Dieu, qu'est-ce que tu veux me dire ? Dieu, qu'est-ce que tu veux que je fasse à travers tout ça ? Et ces questions-là que je me suis posées,
et que je pose à Dieu, et auquel je n'avais pas forcément de réponse au départ, ça m'a demandé de persévérer, ça m'a demandé d'avoir la foi, ça m'a demandé de ne pas abandonner, ça m'a demandé de garder confiance en Dieu. Et toutes ces choses-là que j'ai appris dans ces périodes de vallées, entre guillemets, de creux, ce sont maintenant des fondements de ma foi, en fait. C'est des choses que je garde au plus profond de mon cœur et que je peux partager aux autres. Parce que j'ai la foi que Dieu agit, parce que j'ai la foi que Dieu a été fidèle dans ces moments-là. Et que j'ai la foi que Dieu est vivant et que Dieu s'est révélé à moi dans ces moments-là. Et c'est quelque chose de fort, et c'est des convictions que Dieu crée dans notre vie, sur lesquelles on peut construire. C'est comme des fondations, en fait, de notre vie chrétienne. Bien sûr, on s'est converti, mais ensuite, il y a des moments aussi charnières de notre vie dans lesquels on a vécu la bonté de Dieu, la présence de Dieu. Et c'est ces moments-là aussi qui sont importants à ce qu'on se remémore. Quels sont les moments où Dieu m'a parlé? Quels sont les moments où Dieu m'a fait grandir? Quels sont les moments où j'ai pu faire confiance à Dieu malgré les circonstances? Donc ces moments-là, c'est important. Donc, les hauts comme les bas, là j'ai quand même pas mal insisté sur les bas, mais les hauts comme les bas sont importants. Vous voyez? Soyez pas non plus pessimiste et dire ma vie c'est tout nul, ta. Et voilà. Dieu est bon aussi. All the time he is good, comme diraient les anglo-saxons. Dans tout temps il est bon. Dans les moments hauts comme dans les moments bas. Mais c'est vrai que les moments bas, c'est des choses qu'on veut pas forcément regarder. Mais Dieu nous apprend énormément et c'est important de faire ce travail aussi. Et de s'en rappeler pour être reconnaissant envers Dieu et de pouvoir le partager parce que Dieu nous donne aussi cette grâce de pouvoir partager et de pouvoir bénir aussi les autres à travers ça. Donc voilà. Je vais passer la parole à Alain.
Oui. Alain est un exemple de témoignage du post-conversion. Un exemple.
Donc je vais raconter mon témoignage. Donc après ma conversion, j'allais beaucoup à d'événements chrétiens. Dès qu'il y avait un événement, un camp, une semaine d'évangélisation, une soirée, j'essayais d'y aller. Et grâce à ça, je me suis fait beaucoup d'amis chrétiens et je passais beaucoup de temps entre chrétiens. Puis j'ai eu une période où j'ai eu des collègues qui ont une mauvaise influence sur moi. Ces collègues se moquaient souvent des autres, critiquaient les autres, disaient beaucoup de gros mots. Donc ça m'a beaucoup influencé sur ma vie spirituelle et ma relation avec Dieu. Donc heureusement, Dieu est intervenu, il y a une réduction budgétaire et j'ai quitté la mission. Voilà. Et Dieu m'a donné une autre mission, de nouveaux collègues, un nouvel environnement de travail. Donc grâce à ma relation avec Dieu, je n'ai pas d'inquiétude par rapport à ma vie future, parce que je sais que Dieu est sous contrôle. Et Dieu sait ce qu'il y a de meilleur pour moi. Donc récemment, j'ai eu un accident de vélo. Je n'ai pas eu de stress particulier. J'étais plutôt en paix. Et je sentais que Dieu était sous le contrôle. Et je n'ai pas peur de la mort non plus, parce que je sais que je serai auprès de Dieu, parce que j'ai accepté Jésus comme mon sauveur.
Okay. Merci beaucoup, Alain. Alors du coup, là, on vient de voir le pont entre nous et la personne pour justement annoncer le message de l'évangile. Ce que je propose pour la fois d'après, c'est de pouvoir écrire votre témoignage post-conversion, alors, pour ceux qui pourraient le faire, et de s'entraîner justement, à pouvoir justement comment est-ce qu'on s'entraîne. Bah, déjà, c'est aussi prier pour votre ICOS et contacter votre ICOS. Et peut-être que votre ICOS, vous aurez l'occasion de lui partager. Oui. C'est mettre en pratique directement. En fait. On ne va pas attendre de se le répéter 10 fois ici avant de dire bon bah au bout d'un an c'est bon, j'ai le diplôme pour dire que j'ai le droit d'évangéliser. Non, c'est vraiment dans la vie de tous les jours et peut-être vous pouvez commencer à le faire avec votre conjoint, avec votre famille, qui sont déjà croyants, hein, mais qui peut-être, et qui peuvent vous donner leur avis dessus aussi. Voilà. Donc pour la fois d'après, écrivez vos témoignages, essayez de partager avec un de vos ICOS, un des 5 noms que vous avez mis. Ou des autres noms, hein, parce que c'est toujours des imprévus ou des bonnes nouvelles.
Je pense que le témoignage, faut pas c'est vraiment un partage en fait. Il faut pas non plus que vous voyez ça comme un exercice comme si vous allez vous baptiser la semaine prochaine et qu'après vous allez devoir faire votre témoignage devant tout le monde avec votre feuille A4 recto verso, etc. Vous voyez, c'est vraiment, enfin, au-delà de ça, c'est au-delà de l'exercice, encore une fois, au-delà de l'exercice, c'est vraiment pouvoir identifier. En fait, voilà, c'est vraiment plus un exercice pour vous, en fait, personnel. C'est ok, maintenant je suis là dans ma vie chrétienne, je me pose et je regarde en arrière et je regarde tout le chemin que j'ai parcouru avec Dieu depuis que je suis chrétien. Je me remémore un petit peu. Et le témoignage, c'est pas une liste à la Prévert entre guillemets de dire tout ce qui s'est passé, etc. Mais vraiment identifier peut-être un, deux ou trois événements principaux où vous dites waouh, là à ce moment-là, Dieu m'a vraiment touché, Dieu m'a vraiment parlé, ou haut comme bas, hein, entre guillemets. Mais vraiment des événements fondateurs, des stepping stones, entre guillemets, des pierres fondatrices, qui vous dites waouh, là vraiment, Dieu m'a parlé, Dieu m'a appris, Dieu m'a fait grandir, ou Dieu m'a humilié, je ne sais pas. Et ça, c'est assez facile en fait de voir ça. Et il y a facilement deux, trois choses qui vont popper dans votre tête et que vous allez dire waouh, c'est vraiment ça qui est important. Et creusez ces moments-là et dites qu'est-ce que j'ai appris à ces moments-là, comment Dieu m'a parlé. Et voilà, construisez autour de ça et ce sera plus simple que de vous dire c'est le format d'un témoignage de baptême ou quoi.
Ok, on va passer à la partie l'évangile, un message. Quel est le message de l'évangile? Et comme tout à l'heure, on va repasser le téléphone. Est-ce que vous pouvez dire en une phrase, c'est quoi l'évangile? Et avec une image associée si possible. Si vous deviez expliquer en une phrase à quelqu'un, préparez-vous pour les autres.
Un des premiers.
En une phrase, oula. L'évangile. L'évangile, ça peut être comme un antidote pour une maladie incurable que tout le monde a, que tout le monde hérite à la naissance. Et du coup, on appelle ça le péché, et Jésus, ça serait l'antidote, en fait, contre cette maladie que tout le monde a et qui hérite à la naissance. Et
C'était une image pour décrire, une phrase pour décrire le message de l'évangile avec une image. Comment est-ce que vous le... Ok, passez à Nathan. Comment tu expliquerais le message de l'évangile avec une image? Tu sais pas ce que passer.
Le téléphone, c'est pour faire quoi? Pour moi, l'évangile, c'est le ciel qui s'ouvre. Je vois comme un... Le ciel, et je vois comme un voile, ben, le voile qui est déchiré, on entre dans, c'est entrer dans la présence de Dieu. C'est toucher du doigt Dieu, pour moi, l'évangile.
Laurent. L'évangile avec une image.
Ouais, c'est ça. On est des orphelins et Dieu nous adopte dans la famille.
Ok. Super.
Enfin, enfant de Satan.
Moi, je représente un pont entre deux. Enfin, entre deux. Je sais pas.
Ouais.
Entre deux mondes.
Deux collines. Deux mondes.
Voilà, ouais. Deux collines où on n'avait pas la capacité de passer si Jésus n'a pas fait le lien entre nous et Dieu, quoi.
Ouais. Je viens de l'inventer. Moi, je pense que c'est une lettre qu'on avait chez nous depuis longtemps. Et qu'on n'a jamais ouverte, qui nous était destinée. Et quand on l'ouvre, en fait, on se rend compte que c'est la bonne nouvelle.
Pour moi, l'évangile, c'est l'annonce de la bonne. C'est l'annonce de la bonne nouvelle, sauf que j'ai pas d'image.
C'est vrai?
J'ai pas d'image.
L'annonce de la bonne nouvelle.
Oui.
Super. Et bien, moi, ça va être l'image que je vais vous partager après, donc je vais la garder pour après.
Alors, moi, l'image, c'est on est dans une maison en feu et Jésus, c'est l'issue de secours.
Encore. En fait, j'ai vos images, mais je ne vais pas les dire, donc j'en trouve une autre. Moi, je vois vraiment quelqu'un qui. En fait, c'est l'amour. En fait, c'est comme si moi, vous voyez dans les films, c'est comme si moi j'allais me faire percuter par une voiture ou quoi, et que du coup quelqu'un courait vers moi et me poussait et se faisait tuer à ma place.
Ok. L'image que je propose, c'est imaginez qu'on est dans un tribunal. Donc, j'ai un peu plus de temps parce que je la triche, hein, parce que c'est moi qui ai le micro. Et qu'on est dans un tribunal et il y a un accusé qui est vraiment coupable. Enfin, on sait qu'il est coupable. Et le juge va prononcer la sentence. Et la sentence, c'est... imaginons qu'on est dans un pays où la sentence, c'est la peine de mort. Donc, normalement, la personne doit mourir. Et en fait, c'est comme si le juge disait « Ok, vous êtes coupable et vous méritez la peine de mort. » Sauf qu'avant de taper avec son marteau pour dire « Ça y est, c'est fait », en fait, il enlève ses vêtements de juge et qui prend la place de l'accusé, en fait, en disant « Bah, je vais payer le prix à ta place, je vais mourir à ta place. » Voilà. Ça, c'est une image. Pourquoi des images ? Parce que quand on va juste expliquer... parce que l'évangile, c'est quoi ? On pourrait commencer un peu comme les bracelets, avec il y a la création, on est en relation avec Dieu, il y a le péché qui est venu, avec Adam et Ève, ce péché, c'est comme une maladie, comme l'a dit Tatiana, il y a l'antidote qui est Jésus, est-ce que tu veux le recevoir ? Ça, ok. Mais quand on explique ça à quelqu'un, c'est tellement rapide, ils n'ont pas compris, ils ne savent pas c'est quoi le péché, déjà la création, ils n'y croient pas forcément. Enfin, et du coup, en fait, on se rend compte que ce n'est pas toujours facile à comprendre, en fait. Mais quand on va utiliser des images... comme celles que je viens de faire, toutes celles que vous aviez dites sont bonnes, elles ne sont pas toutes parfaites par rapport à ce qu'il y a dans le message, mais ce n'est pas grave, c'est juste pour permettre aux personnes de bien cerner qu'est-ce que c'est le message de l'évangile. L'idéal quand on présentait le message de l'évangile, c'est de commencer par la création et de parler de la chute et après expliquer la rédemption, c'est-à-dire que Jésus nous a rachetés. Jésus est mort pour nous, voilà. Et que Dieu nous donne une vie nouvelle. Et c'est à travers cela que vous pourrez raconter vos témoignages. Ça peut être un peu les deux. Mais il y a une autre chose aussi, c'est que on n'a pas forcément tout le temps qu'on veut pour être avec la personne. Et peut-être les personnes avec qui on va commencer à avoir une discussion de ce type-là sont des personnes que nous fréquentons très régulièrement. Ça peut être nos collègues. Nos collègues, on passe 80% de notre temps avec eux. Donc venir et balancer la caisse direct et puis leur dire bon bah attendez où c'est pas toujours facile et c'est pas toujours adéquat, moi je l'ai déjà fait et je sais que voilà, c'est ça peut être même avoir l'effet inverse, en fait on peut être catalogué tout ça et en fait il faut savoir que on est dans un contexte, je pense qu'on pourra le faire une autre fois, mais la formation, mais j'en dis quelques mots là, on est dans un contexte qui est post-moderne, les gens croient ce qu'ils veulent croire. On a beau leur prouver par A plus B que c'est C qui est la réponse, les gens ils vont dire « Ah, c'est ta vérité ». Ils n'ont pas de repères comme nous, on en a. Nous, notre repère, c'est la Bible. Avant, les repères, c'était la science. Mais même maintenant, la science, c'est même plus un repère. Ils vont dire « Oui, bah oui, mais il y a une autre théorie qui dit ça. Voilà. » Et du coup, qu'est-ce que ça implique ? Ça veut dire que quand on a une relation avec quelqu'un, soit qu'on aborde dans la rue, soit c'est un collègue, soit c'est quelqu'un de la famille, c'est de savoir déjà écouter la personne. Écouter la personne, poser des bonnes questions pour mieux comprendre comment est-ce qu'elle pense, pourquoi est-ce qu'elle pense comme ça, d'où est-ce que ça vient, est-ce que ça vient de sa culture, si elle est asiatique, est-ce qu'elle est bouddhiste parce que ses parents sont bouddhistes, si elle est musulman, est-ce qu'elle est vraiment pratiquant, parce qu'on a des musulmans qui ne sont pas pratiquants, vous voyez, ça change tout entre un musulman qui est pratiquant et un musulman qui ne l'est pas, par exemple. Le but aussi, c'est de construire une relation d'authenticité et de sincérité avec la personne. Quand vous racontez vos témoignages, vous êtes dans l'authenticité, vous êtes dans la sincérité. Le but, c'est que la personne en face, elle soit aussi dedans. On crée en fait un cadre où la personne se sent en sécurité pour se poser ce genre de questions. Le problème, c'est que quand on vient et qu'on ne pose pas de questions et qu'on balance la sauce, entre guillemets, la personne ne se sent pas forcément écoutée, parce que déjà, on n'a même pas écouté, on ne sait pas trop son histoire, mais on a juste dit « bon, bah, je t'ai balancé l'évangile et maintenant, tu fais quoi avec ça ?» Et en fait, là, on passe à côté de ce que Jésus faisait. Jésus, dans Jean 3, il parle à Nicodème, qui était le top of the top, on va dire, prêtre de l'époque. Et dans Jean 4, il parle avec la Samaritaine, qui était le plus bas du plus bas du plus bas de l'époque. Et il s'adapte à leurs besoins, il leur pose des questions, et à la fin, il leur parle du même message, la nouvelle naissance. Il faut être né de nouveau, vous voyez ? Donc Jésus, c'est un exemple dans cette approche. Et à travers
les réponses aux questions que vous avez posées, vous allez mieux comprendre comment est la personne, et en fonction de ça, vous allez présenter la facette de l'évangile qui va plus correspondre à la personne. Par exemple, si je suis avec quelqu'un qui vient de perdre un proche, je ne vais pas lui raconter direct la notion de péché, etc. J'ai juste dire que je prie pour elle. Rien que ça, c'est déjà juste énorme, par exemple. Des fois, il vaut mieux se taire. C'est rien d'aller dire du coup, tu penses qu'il y a une vie après la mort. Enfin, voilà, c'est peut-être pas le bon moment non plus. Vous voyez, il y a vraiment du discernement à avoir. Mais si c'est quelqu'un qui se dit, hier, je suis allé à un baptême et je suis catholique à la base, mais j'y crois plus trop. Ah bah là, vous avez une porte ouverte pour aborder le thème du baptême. Ah, mais du coup, c'est quoi pour toi le thème du baptême? Ça veut dire quoi le baptême? Ah, parce que chez nous, en fait, le baptême, c'est pas chez les enfants. Du coup, en fait, c'est à la conversion. Et tu vois, par exemple, toi non plus? Non. Et du coup, là, je raconte mon témoignage. Vous voyez, c'est... moi, je sais pas, j'ai une facilité, j'avoue. C'est un don, je pense, de Dieu, mais je pense qu'on peut tous l'avoir. C'est que assez facilement, dans une discussion avec quelqu'un, même que j'ai rencontré depuis pas très longtemps, on va arriver à avoir un moment de discussion spirituelle. C'est-à-dire que la personne n'est pas forcément croyante, mais on va arriver à un moment donné à parler de Dieu. Et ça, c'est le but, en fait. Le but, c'est pas de dire, allez, hop, je balance l'évangile, mais je vais peut-être juste dire, tu vois, par exemple, dans le baptême, moi, ce que je trouve beau, c'est le fait qu'on montre qu'il y a une transformation dans notre cœur. Et tu laisses ça avec la personne, et puis la fois d'après, elle fait, ah, mais la fois, tu m'avais parlé de ça. Ou alors, si ça se trouve, ça fait pas écho, c'est pas grave, ça fait pas écho. Ou peut-être dans 3 mois, elle vous en reparlera. Donc vraiment, pas juste balancer la sauce, mais s'adapter, poser des questions, intéressez-vous à la personne, construisez une vraie relation. Les gens aujourd'hui dans ce monde sont très sur les écrans. Je ne sais pas si vous avez remarqué, là c'est génial, personne n'est sur son écran. Mais les gens sont coupés en fait, ils sont à la recherche de vraies relations. Donc nous, on sommes capables de leur offrir ces vraies relations aussi. Et des relations sincères avec un message qui est la vérité, qui n'est pas une vérité qui dépend que de moi, mais qui dépend de ce que Jésus est mort pour sauver le monde entier. Et ça, c'est le plus important et c'est ce pourquoi nous sommes là. Donc voilà, voilà pour le message. Et du coup, par rapport à l'application, pour la mise en pratique, on est appelé quelque part à annoncer l'évangile à chacun. Après, ce n'est pas de la même manière. Quand je suis avec mon patron, ce n'est pas de la même manière. Quoi. Voilà. C'est sûr qu'on ne va peut-être pas dire la même chose. Mais... annoncer l'évangile à travers son comportement, ça on en parlera quand on fera la formation sur le travail, c'est déjà juste énorme. Le fait d'être loyal, de ne pas compter ses heures, et alors ça c'est pour ceux qui sont au cadre, mais, et de dire que je fais le boulot parce que je cherche l'excellence, parce que l'excellence je fais parce que Dieu cherche l'excellence, ça peut parler aux gens. Ça peut parler aux gens. Donc adaptez-vous aux personnes, soit avec des non-chrétiens, essayez de leur partager une partie de l'évangile, selon leur contexte. Et si c'est avec des chrétiens, encouragez-les à se former. Ce que vous avez reçu aujourd'hui, c'est quelque chose qu'on pourra vous envoyer et que vous pourrez faire avec ceux qui ont peut-être n'étaient pas là, mais que vous pourrez faire avec eux en one-one ou quand vous voyez à 3, à 4, un déjeuner. Enfin voilà, il y a vraiment une super occasion, de transmettre tout ce qu'on a reçu aujourd'hui. Et le but, c'est pas de juste le garder, de dire dans un mois, qu'est-ce qu'on va avoir. C'est pas une leçon, en fait. C'est des conseils, des tips pour mettre en pratique la vie que Dieu nous a donnée. Voilà. On a un moment de questions, on a 5 minutes de questions, si jamais vous avez des questions par rapport à la formation.
Du coup, en fait, on devrait adapter notre témoignage en fonction de l'autre. D'une certaine manière.
Pas forcément ton témoignage, je pense que ton témoignage restera le même, mais...
Ouais, mais si tu dis qu'on a que 3 minutes de temps, il vaut mieux adapter en fonction de l'autre, non?
Ah, ça c'était pour le témoignage.
Ouais.
Mais...
Pré-conversion ou post-conversion?
Post-conversion.
Post-conversion.
Tu vois, nos faits marquants dans notre vie, on en a plusieurs, on n'en a pas qu'une. Au mieux, pas avoir toujours le même témoignage, mais au contraire, pouvoir être malléable et pouvoir s'adapter en fonction de...
Ça, c'est carrément l'idéal, ça.
C'est pour ça que je pense que ce qui est important, c'est d'avoir plusieurs mouvements. Mais après, Dieu est souverain dans ta vie, tu vois, Dieu il crée un moment et ça ne te parle pas. Il ne faut pas que tu dises, oh mince, ça se trouve, mon témoignage n'est pas assez bon.
Non.
Non, mais tu vois, si je pousse le raisonnement.
C'est pas bon, mais c'est.
C'est pas adapté. Mais,
est-ce
mais,
que ça toucherait l'autre, en
ouais,
fait, c'est ça
c'est enfin, je pense que c'est pas grave dans le sens où. Il faut que tu sens que la personne. Comme il a dit, tu vois, ne mettons pas la sauce quand ça sert à rien. Mais si une personne est ouverte et tu sens que tu peux partager. Partage et il faut pas non plus que tu te mettes très restreint, c'est pas exactement ce dont il a besoin ou quoi.
Ouais.
Tu vois, si Dieu te pousse et si tu te sens aussi appelé à partager, partage. Tu vois. Mm. Parce que la puissance de l'évangile, tu vois, c'est un message pour tout le monde en fait. Même si la personne ne vit pas forcément ce que tu vis, tu vois, dans ta relation avec Dieu, dans la façon dont tu changes, que tu transformes, tu vois, ça touche les gens. Que la personne ne vive ou pas ce que tu vis, ça touche les gens, tu vois. Je pense que voilà, mon point c'est ne te restreins pas et te mets pas de barrière en tout cas. Et oui, c'est sûr que si t'as un truc qui tourne parfaitement dans la personne, pour moi.
Ouais, d'accord.
Sinon, si tu peux encourager une personne.
Après, c'est très sur le moment. Hein. C'est-à-dire que peut-être, l'idée c'est quand même d'avoir un peu son témoignage post-conversion clair dans sa tête. Et après, peut-être de sortir juste le moment que tu as envie de partager avec la personne. Enfin, le moment particulier que tu penses approprier. Et ça, c'est avec la prière, c'est l'Esprit Saint qui va te guider, je pense. Moi, il y a plein de fois où des fois je me dis, ah tiens, il faut que j'ai ça, et puis au fur et à mesure qu'on rentre dans la discussion avec la personne, elle répond, parce qu'en fait, une fois que vous avez commencé à écouter, poser des questions, la personne parle beaucoup, hein. Enfin, franchement. Ouais. Et c'est trop bien, parce que du coup, des fois, ils ont besoin de se sentir écoutés.
Ouais.
Donc en fait, toi, juste le fait que tu es écouté et que tu as juste dit une idée comme ça, moi, ça me fait penser à ce que je vis dans ma relation avec Dieu, et puis juste ça. Tu vois, une relation entre mes parents et Dieu, bah, c'est comme. Entre mes parents et moi, c'est comme entre Dieu et moi, tu vois. Tu dis juste ça. Des fois, ça a plus parlé que si tu avais gagné un débat sur création et évolution, tu vois. C'est, en fait, c'est ça qui touche les cœurs, c'est vraiment s'adapter. Et pour le message de l'évangile, pareil. T'as beau. Enfin, tu racontes ton témoignage, mais le message de l'évangile, bah, c'est. En fait, c'est imbriqué dans ton témoignage. Ça fait partie de ton témoignage. Ok, et aujourd'hui, donc je rappelle, on a vu faire des nations des disciples, on a vu que c'était faire de aller et non pas attendre qu'ils viennent. On a parlé du fait que c'était toutes les personnes, toutes les nations et pas juste une certaine communauté spécifique. On a vu que c'était faire des disciples, donc c'est pas faire des disciples qui vont faire d'autres disciples et pas faire des chrétiens qui viennent juste à l'église le dimanche. On a vu le comment. On a vu le qui, pardon, c'était notre oikos, les gens que Dieu a mis sur le chemin. Et on a vu le comment, c'était à travers nos témoignages, à travers le message de l'évangile, avec une image que les gens peuvent comprendre. Voilà. Donc, pour la prochaine fois, voilà, c'est un exercice, mais ne prenez pas comme un devoir, voyez plus ça comme une opportunité de mettre en pratique. Continuez à prier pour votre oikos. Cherchez à leur raconter un peu votre témoignage post-conversion. Quand c'est possible, je veux dire, s'il n'y a aucune opportunité, parce que vous êtes toujours en groupe de 10, moi, je déconseille de le faire dans un groupe, un grand groupe. Le mieux, c'est quand vous êtes un à un avec un collègue, avec un ami, avec voilà. Quand on est en grand groupe, bah, des fois, les gens ne se sentent pas naturels pour avoir ce genre de discussion aussi. Voilà. Donc après, ça, vraiment que Dieu guide. Il suffit qu'à la pause club, vous accompagnez votre ami qui va fumer et vous ne trouvez que tous les deux, bah, c'est trop bien en fait. Et peut-être que vous n'avez que 3 minutes avant que les autres arrivent. Donc voilà, c'est un exemple. Tu veux prier pour
Et ouais, juste pour terminer, l'importance aussi de la prière. Je pense que tout ce qu'on dit là, en vrai, Dieu est au-delà de tout ça. Enfin, Dieu est au-delà de toutes les techniques. On peut essayer d'un peu de formaliser les choses. On essaie un peu de formaliser les choses pour donner un petit peu de une sorte de cadre pour qu'on puisse faire les choses. Mais quand Dieu veut agir et quand Dieu veut vous utiliser, il utilise des manières totalement différentes. Mais surtout, que votre cœur soit prêt. Que votre cœur soit prêt et que votre cœur. Et le seul moyen pour que votre cœur soit prêt à l'évangélisation, c'est par la prière. Mm. La prière. Comme ce que j'ai dit, si votre cœur n'est pas prêt et si votre cœur n'a pas l'amour, etc., vous aurez beau appliquer tous ces moyens-là, ça sera superficiel en fait. Parce que le fondement même, qui est l'amour et la foi, que Dieu, quand je parle, l'Esprit de Dieu est avec moi et l'Esprit de Dieu peut toucher. Si vous n'êtes pas convaincu de ça, si vous n'avez pas la foi que Dieu est là, si vous n'avez pas la foi que Dieu nous appelle
à évangéliser, toutes ces choses-là ne serviront à rien. Donc, et le moyen et l'arme que tu nous donnes pour préparer tout ça, c'est la prière. Seigneur, pardon si je n'évangélise pas, ou pardon si des fois je n'ai pas assez la foi, que l'évangile c'est une puissance qui sauve, mais viens augmenter ma foi, Seigneur. Viens me montrer que tu es vivant. Viens me montrer et viens me forcer à aller au-delà entre guillemets de ma zone de confort et permets-moi de voir ta main agir. Quand je veux te faire confiance, permets-moi de voir, manifeste ta puissance. Et ces prières-là, c'est vraiment une prière de foi, en fait, pour que Dieu puisse agir. Et quand notre cœur et notre esprit sont disposés à ce que Dieu agisse, Dieu agit et Dieu fait de grandes choses. Et je vais terminer par une prière, justement, pour qu'on puisse remettre notre cœur dans les mains du Seigneur. Père éternel, tu es le Dieu tout-puissant, Seigneur. Tu es El Shaddai, Seigneur, celui qui fait toutes choses en son temps, Seigneur, parfaitement. Merci Seigneur parce que tu nous as placés ici, dans cette église, dans cette terre Seigneur, parce que tu veux nous utiliser comme des ambassadeurs, parce que tu veux nous utiliser pour partager ta parole Seigneur. Seigneur, tu le dis, tu nous envoies Seigneur pour partager ta parole jusqu'aux extrémités de la terre et alors tu reviendras Seigneur. Et oui Seigneur, nous sommes privilégiés d'être associés à ton œuvre pour pouvoir propager cette parole Seigneur. Là où tu nous places, auprès de notre famille, auprès de nos amis, auprès de nos collègues, de nos camarades de classe, Seigneur. Viens, Seigneur, par ton esprit, nous ouvrir les yeux spirituels, Seigneur, pour que nous puissions voir la misère qu'il y a, le besoin des âmes pour toi, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, à avoir la compassion des âmes. Vibrer pour ces personnes-là, Seigneur. On veut te prier, Seigneur, pour tous les oikos qui ont été mentionnés par chacune des personnes, Seigneur. Que ce ne soit pas juste des noms sur une feuille qu'on va jeter après. Et que ce soit des noms qui soient inscrits dans notre cœur, Seigneur, pour que nous puissions persévérer dans la prière chaque jour, Seigneur. Que ton esprit, Seigneur, nous émonde, Seigneur, que nos esprits également nous tourmentent, entre guillemets, Seigneur, pour que nous puissions avoir cet amour, Seigneur. Viens augmenter notre foi, viens augmenter notre amour, Père. Nous avons besoin de toi, Seigneur, parce que nous voulons voir des miracles s'opérer dans la vie des gens, Seigneur. Seigneur, toi, le Dieu Tout-Puissant, Seigneur, nous voulons que tu augmentes notre foi, Seigneur. Parce que quand tu parles, Seigneur, la chose s'accomplit. Quand tu ordonnes, Seigneur, la chose arrive. Et oui, Seigneur, nous voulons te prier, Seigneur, pour que des miracles de conversion puissent avoir lieu, Seigneur, et que nous puissions être des témoins de ta puissance, Seigneur. L'Évangile est une puissance qui sauve, Seigneur. Nous voulons le croire fortement, Seigneur. Convainc-nous de ça, Seigneur, que nous puissions le vivre personnellement, Seigneur, et le partager à ces oikos, Seigneur, aux personnes qui nous entourent, Seigneur. Merci encore pour ce matin. Merci encore pour toutes ces choses que nous avons pu apprendre de toi, Seigneur. Mais viens encore une fois, par ton esprit, Seigneur, nous apporter la connaissance, la sagesse, Seigneur, et de vivre surtout cette puissance de l'Évangile en toi. Au nom de ton Fils Jésus-Christ, je te prie. Amen.
Amen.